nous sommes en compagnie d'Ala El Aswani. Vous publiez « J'ai couru vers le Nil », un roman traduit de l'égyptien par Gilles Gauthier. C'est un roman qui est un roman choral, comme je l'ai dit. Autrement dit, on y entend s'exprimer plusieurs personnes qui incarnent l'Égypte d'aujourd'hui, aussi bien un général tortionnaire qu'une étudiante pleine d'espoir. On les suit à partir de 2011 et on voit cette révolution et ces désillusions. Le fait d'écrire en arabe, vous parlez parfaitement français. Quand vous écrivez en arabe, comment la langue se plie-t-elle à vos souhaits? Quelle différence entre l'écriture en arabe et ce que l'on peut lire en français?
La différence n'est, pour moi, la différence n'est pas visible. C'est que moi, j'ai appris le français, l'arabe, quand j'avais 4 ans au même jour. Alors je m'exprime en français sans aucune difficulté. Mais je pense que, parce qu'il s'agit d'une société arabe, une société égyptienne, des personnages égyptiens, je pense que en écrivant en arabe, il y a toujours quelque chose qui n'est pas visible mais qui existe dans le texte, des espaces, une capacité, des moyens pour vraiment attraper, arriver au personnage en arabe.
Il y a quelques jours, je recevais Boualem Sansal, l'écrivain algérien. Il y a une école d'écrivains algériens qui, eux, écrivent en français pour des raisons historiques évidentes. Les écrivains dont vous vous sentez proches, justement, les écrivains du monde arabe, est-ce que ces écrivains algériens qui écrivent sur des thèmes qui ne sont pas très éloignés des vôtres, par exemple le poids de la religion, la difficulté de résister à l'obscurantisme, la difficulté également de composer avec des régimes qui sont des régimes dictatoriaux?
Oui, ça m'est égal, la langue, mais il s'agit d'un texte. Si c'est, moi je lis aussi, et j'écris en anglais. Alors c'est pas la langue qui compte à mon avis, mais c'est le texte littéraire. Et aussi, il s'agit toujours d'une souffrance humaine, si vous voulez. Soit en Algérie, soit en Égypte, soit en France, la littérature c'est l'art des êtres humains. C'est l'art à travers lequel on peut vraiment décrire une souffrance humaine, on peut sentir comment les autres souffrent. Alors moi, Boualem Sansal, qui est un ami, moi, et à mon avis un grand écrivain, mais aussi il s'agit d'une souffrance humaine. Même à cause du fanatisme, à cause de l'extrémisme, à cause de la religion, à cause de plusieurs sujets, mais à la fin, il y a un être humain qui souffre. Il y a un écrivain qui essaye de transmettre son message.
Qui sont les écrivains qui vous ont formé à la soignée?
Ah, mais j'étais toujours formé et très tôt par la culture française. Alors c'était le rôle de la culture française était essentiel pour moi parce que j'étais au lycée français du Caire dès l'âge de 4 ans. Alors on a eu un programme très efficace de littérature française et je trouve maintenant.
On lisait quoi à l'époque?
Je trouve maintenant je découvre des influences. Par exemple, je me souviens très bien la première fois qu'on a étudié, j'avais 10 ans, qu'on a étudié les caractères de la Bruyère. J'étais impressionné par le fait que on peut dessiner un visage avec les mots. Et je trouve cette influence quand je décris mes personnages maintenant. Vous voyez, La Fontaine, les fables de La Fontaine. On devait étudier les fables de La Fontaine et j'ai utilisé La Fontaine en écrivant des textes littéraires sur les animaux qui ont eu une influence énorme en Égypte. Parce que j'ai présenté Monsieur Moubarak à l'époque comme un éléphant très vieux et le fils comme le petit éléphant et le régime comme des chiens très méchants. Alors, c'est le ministre d'Intérieur, à l'époque, il s'est mis en querelle et parlait au rédacteur en chef en disant, mais comment il peut nous présenter comme des chiens, vous voyez? Et c'était toujours La Fontaine qui m'a appris, moi, que on peut dire tout. à travers des contes d'animaux, vous voyez. Alors, l'influence de la culture française est énorme.
Dans votre dernier roman, J'ai couru vers le Nil, il y a un véritable art des monologues intérieurs, de la manière dont vous pouvez vous emparer, en fait, de réflexions, de descriptions aussi, qui sont en réalité très éloignées des vôtres. Je vais prendre un exemple. Vous citez, par exemple, la manière dont on juge une présentatrice de télévision qui est présentée comme étant très belle, elle s'appelle Nourane, et vous dites quelles sont les rumeurs et les préjugés qui sont colportés à son sujet. Vous dites, par exemple, on dit que Nourane assiste aux leçons du cheikh Chamel simplement pour donner l'impression qu'elle est pieuse et que si elle pleure pendant la leçon, ce n'est pas par humilité, mais pour attirer les regards. Et vous expliquez ce que les gens pensent à ce sujet, c'est-à-dire que pour vous, ce roman, c'est aussi la possibilité d'être la voix de voix très différente de la vôtre à la El Soigny.
Oui, c'est une diversité que je pense que c'est la littérature comme ça. La littérature ne doit pas vraiment être une seule opinion. L'article doit être une seule opinion. Si on parle d'un article, ça veut dire qu'il y a un sujet. En abordant ce sujet, je vais expliquer mon opinion à moi. Mais la vie... je répète que la littérature, c'est une vie sur les papiers plus significative, plus profonde et plus belle. Alors la vie est beaucoup plus compliquée. Il y a toujours cette diversité. Il y a toujours des opinions. J'essaye vraiment de transmettre cette diversité. Et c'est, par exemple, avec Nourane, c'est au lecteur d'évaluer Nourane. C'est pas moi qui vais évaluer. Je vais dire les opinions et à la fin, les lecteurs vont comprendre quel genre de personne est-elle.
Et puis, il y a, au travers de Nourane, au travers du portrait d'une servante, au travers du portrait d'une étudiante, toute la difficulté d'être une femme aujourd'hui en Égypte, autrement dit, de subir la domination masculine et de subir aussi la domination religieuse.
Et politique. Mais absolument, mais c'est un problème parce que si on est femme en Égypte, si on est copte, si on est, alors on est, il y a toujours on a des problèmes pour plusieurs raisons. Il y a le problème de la dictature citoyen, il y a un problème dictature citoyen et femme, il y a un problème dictature citoyen et chrétien, ou bien, alors il y a toujours ça, la dictature. C'est contre tout le monde, vous voyez. Aussi, on est coincé en Égypte. Et j'espère que ça peut être transmis à travers mon texte, mon livre. C'est que dès 1952, on a été toujours coincé entre les militaires et les islamistes. Avant, l'Égypte a vécu. Une période, une époque libérale, vraiment, où il y avait mouvement de libération des femmes et tout. On ne sait pas ça souvent en Égypte, à l'Occident. Mais on a été toujours coincé entre militaires et islamistes. Et ils partagent beaucoup de choses, vous voyez. Ils ont toujours eu un cycle de conflit, alliance. Nous sommes coincés entre les deux. Alors, le sujet de la femme n'est pas loin de ça, parce que soit islamiste, soit militaire, ils ne pensent pas d'une manière positive du rôle de la femme dans la société.
Et puis, toujours dans votre manière de peindre la société égyptienne à la El Aswani, l'un des points universels, alors cette fois-ci entre les hommes et les femmes, c'est la terrible complexité de la sexualité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui provoque beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, en tout cas dans la manière dont vous décrivez vos personnages avec leurs envies, leurs désirs, leurs fantasmes.
Oui, parce que la sexualité, c'est un espace littéraire. On fait pas l'amour seulement pour le désir, mais il y a plusieurs motivations pour un être humain de faire l'amour. C'est que on peut faire l'amour parce qu'on est frustré, on cherche une mère, on cherche une identité, on cherche vraiment une compagnie humaine pour plusieurs choses. Et le moment sexuel, si vous voulez, le moment de relation physique, c'est un moment très profond. Il y a des couches, on peut pas résumer comme ça, on fait l'amour et... Non, il y a vraiment des couches parce que c'est une expérience humaine unique. Et ça m'étonne pas que ça soit vraiment le sujet préféré pour plusieurs romanciers. Vous voyez, parce que c'est une découverte. Et j'essaye de faire ça, de découvrir mes personnages à travers leurs relations physiques.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, c'est un espace littéraire?
C'est un espace, c'est une motivation, c'est une inspiration. Parce que il s'agit en littérature, pas de ce qu'on dit, mais ce qu'on cache, ce qu'on dit pas. Ce qu'on essaye de cacher, c'est ça la littérature. C'est le petit enfant qui dit la vérité devant le roi. Vous voyez? Alors c'est pour cela que chaque roman, j'ai l'honneur d'avoir cette réaction, chaque roman qui fait des problèmes, je deviens fier de mon roman. Vous voyez? Alors tous mes romans ont fait des problèmes.
Bon, mais alors, justement, parce que les problèmes, alors vous avez des problèmes en tant que romancier, puisque vous êtes romancier à la Soigny. Vos personnages, ils ont des problèmes en tant qu'êtres humains, ce sont des êtres humains. Et alors, éventuellement, on pourrait se dire, il y a une possibilité pour eux, c'est la fuite vers le privé, l'espace privé qui, lui, est protégé des assauts de la dictature, des assauts de la société. Eh bien, pas du tout. Ils se retrouvent avec, finalement, autant d'embarras, autant de frustrations, autant de blocages au sein de leur vie privée. Et c'est très bien symbolisé par leur frustration sexuelle.
Absolument. Absolument, parce que avec la dictature, il y a une tendance toujours de faire un petit monde, de se protéger en faisant un petit monde. Ça veut dire que vous restez comme citoyen, comme égyptien, avec votre famille, et vous oubliez ce qui se passe en politique, et vous restez, vous gardez votre famille, vous travaillez pour élever vos enfants et tout. Mais ça va pas marcher parce qu'à un moment donné, ce qui se passe dehors va vous arriver. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est que les gens qui essayent de ne rien faire pour résister à une dictature, ils pensent qu'ils peuvent vraiment avoir un petit monde comme ça sans problème. Et ça n'arrive jamais parce qu'à un moment donné, la dictature qui est dehors va arriver chez vous.
Et dans ce roman qui est un roman choral, vous attachez à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix et qui le disent. Je vais lire un extrait de votre roman « J'ai couru vers le Nil » à la El Aswani. Il s'agit donc d'une étudiante qui est en correspondance avec un étudiant et elle lui dit la chose suivante. « Je ne suis vraiment rien du tout et toi tu n'es rien du tout et tous les jeunes de la Révolution ne sont rien du tout. Ils ont toujours fait, vous parlez des militaires du régime, ils ont toujours fait et ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Ils nous tueront, nous outrageront, tireront sur nos yeux et personne ne les jugera, personne ne leur demandera de compte. Tu sais pourquoi? Parce que nous ne sommes rien, parce que nous avons fait une révolution dont personne n'avait besoin et dont personne ne voulait. »
Oui, mais c'est pas mon opinion du tout. C'est l'opinion de Asma, mon personnage. C'est que elle est vraiment frustrée. Elle n'est pas optimiste du tout. Elle pense que c'est fini. Moi, je suis optimiste. Je pense pas que c'est fini.
Pourquoi dit-elle que personne ne voulait de cette révolution?
C'est elle. Parce qu'elle était torturée. Oui, elle avait cette... Vous voyez comment...
Non, mais parce qu'elle pense aussi qu'elle est coincée entre les islamistes et les militaires.
Ah, et bien aussi parce qu'elle pense qu'elle n'a pas été soutenue par le peuple. Et elle a défendu les droits du peuple. Elle a payé un prix pour que le peuple soit vraiment respecté comme des êtres humains. Et quand elle a été torturée, quand elle a été arrêtée, le peuple ne l'a pas soutenue. Et ça, c'est un sentiment qui existe parmi les jeunes révolutionnaires. Mais je dois ici dire que le romancier, c'est l'opinion du romancier, c'est pas l'opinion de ses personnages. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que moi, je suis optimiste. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on va dépasser ce qui se passe.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que j'ai lu l'histoire. Parce que je prends, par exemple, la révolution française comme modèle. La révolution française, après 10 ans, hein, c'était quoi? C'était l'enfer en France. Hein. Mais à la fin, il y a un changement créé par la révolution. Et ici, il ne s'agit pas seulement du politique. Quand on dit les résultats de la révolution, les gens réfléchissent, pensent que c'est seulement la politique. Ça, c'est pas vrai. On a eu des changements qui sont pas politiques, qui sont moins visibles que le politique, mais qui sont très importants. Maintenant, par exemple, les imams. J'ai présenté un personnage, un imam hypocrite, un tartuffe.
Oui, qui est très drôle, parce qu'il faut dire aussi que c'est un livre très drôle. Vous n'hésitez pas à utiliser effectivement l'humour. Et votre personnage d'imam, il est gratiné, puisque c'est un ancien guide touristique, ancien gérant de salle de sport. Il est devenu prédicateur star. En quelque sorte, on peut dire qu'il a tout raté, sauf au moment où il est devenu un prédicateur religieux. Et alors là, ça lui a réussi.
Ah oui, un prédicateur religieux avec un millionnaire. Et maintenant, avant, quand je disais ça des imams, j'écrivais ça dans un roman, la réaction était, il y avait pas mal de gens qui se mettaient en colère en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont des gens de Dieu et des choses pareilles. Maintenant, on dit plus ça. Parce que c'est une découverte grâce à la révolution. Maintenant, est-ce que cette question du voile en Égypte, on discute plus. Il y a des femmes voilées, des femmes qui sont femmes voilées. Il y a des femmes qui étaient voilées mais qui sont plus voilées. C'est grâce à la révolution qu'on voit la femme comme ça. C'est grâce à la révolution qu'on voit que le président n'est pas notre père, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui travaille pour nous. Ce sont les leçons de la révolution.
Alors, il y a quand même quelque chose qui n'a pas changé depuis la révolution. Vous racontez comment, par exemple, le cheikh Chamel, donc c'est ce prédicateur religieux qui est incroyablement hypocrite, puisque son mode de vie est en contradiction absolue avec ce qu'il professe, la manière dont il viole les femmes, la manière dont il s'empare d'elles comme un prédateur, tandis que de l'autre côté, les militaires, eux, sont des prédateurs, notamment des richesses du pays.
Oui.
Et cela se lit d'ailleurs dans votre écriture. Vous incarnez la manière dont ces gens-là volent le pays, occupent l'espace et finalement font tout pour que rien ne change.
Oui, rien ne change pour eux. Mais c'est ça.
Donc rien ne change pour le peuple.
Exactement. Ils veulent garder cette classe des élites avec les fortunes, avec tous les privilèges, et c'est bien. Et on peut, après garder cette classe, après garder le pouvoir, on peut discuter quels sont les problèmes du peuple. Et alors, les problèmes du peuple égyptien, c'est cette classe. Le problème des peuples égyptiens, c'est le pouvoir. Vous voyez, et on peut rien changer sans changer le pouvoir. Et c'était très clair pour la révolution dès le commencement.
Et alors, pourquoi celle-ci, malheureusement, hélas, pour l'instant en tout cas, n'a pas réussi à changer le pouvoir? Je sais que vous êtes un grand lecteur de la Boétie qui incarne cette volonté de dire au peuple, finalement, si vous voulez être libre, vous pouvez être libre. Pourquoi un si petit nombre de personnes dans votre roman et dans l'Égypte réelle tient le pays en coupe réglée?
Oui, mais la Boétie, c'était la leçon de la Boétie, un grand penseur, parce qu'il a dit, et très tôt, c'est que la dictature, c'est pas vraiment, c'est pas un problème du dictateur, mais c'est un problème où il y a deux côtés. Il y a un côté le dictateur, l'autre côté le peuple, qui permet la dictature, ou qui a besoin par voie de la dictature. Vous voyez, alors c'est une idée vraiment très profonde. Et alors, moi j'ai écrit un livre qui va sortir en anglais sur la dictature, et j'ai commencé le livre par Étienne de la Boétie, parce que c'est une idée vraiment très importante. Alors, je pense que le problème, c'est que il y a une dictature et le peuple qui a peur, qui a peur. Il a peur de la dictature, il a peur des conséquences, vous voyez. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Hein, comme je viens de dire, une histoire de la révolution, c'est pas un an, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans. La révolution, c'est une voie. Dès qu'on commence cette voie, ça veut dire que on va arriver au changement.
Mais aujourd'hui, avec ce roman extrêmement désillusionné que vous publiez à la Soignée, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le président Sissi incarne une dictature encore plus dure que celle de Moubarak?
Absolument. On avait toujours une dictature militaire au pouvoir dès 1952, mais avec des versions différentes. Non, cette dictature est plus dure. Et plus dure parce qu'il y avait une révolution. Alors, quand il y a une révolution, le pouvoir continue, il se comporte comme un tigre blessé. Et le tigre blessé est beaucoup plus dangereux qu'un tigre qui n'est pas blessé. Vous voyez, le tigre blessé, il sent tout le temps qu'il est menacé. Il a été blessé quand même, ça veut dire qu'il n'est pas très fort, vous voyez. Alors il commence tout le temps à attaquer tout le monde. Et c'est exactement la dictature qui existe en Égypte.
Et alors comment jugez-vous la répression dont sont l'objet les frères musulmans, la manière dont Mohamed Morsi, qui est donc le chef de la confrérie islamiste des frères musulmans, qui a été le premier président élu démocratiquement en Égypte, c'était en 2012, la manière dont il a été renversé par l'armée. Est-ce que là, vous réussissez à choisir un camp entre Morsi et Sissi?
Je ne trouve pas vraiment une grande différence, parce que même quand Morsi était au pouvoir, les frères musulmans ont gardé leur alliance avec les militaires. Alors le conflit qui existait, c'était un conflit qui a commencé par le peuple, parce que, et ça c'est pas très clair là, c'est que Monsieur Morsi, toutes les élections des frères musulmans, malheureusement, on achète les votes des pauvres, vous voyez. Et ça c'est, on a des vidéos, on a tout.
Moi, je considère... Donc elles étaient truquées?
Non, c'est pas truqué. C'est pas seulement truqué. C'est pas question de truquer. C'est question qu'on va dans un village et on paie les gens les plus pauvres, hein, pour qu'ils votent frères musulmans. Mais ça, c'est une autre histoire. À un moment donné, il a fait un décret à Monsieur Morsi, je pense novembre 2012, selon laquelle il a annulé la loi égyptienne, il a mis les décisions présidentielles au-dessus de la loi. Alors, il y avait des manifestations, des millions qui voulaient des élections présidentielles anticipées. Et je trouve ça très démocratique parce qu'on n'avait pas de parlement, vous voyez. Alors, à un moment donné, il y avait les sit-in et ces sit-in ont été massacrés. C'est vraiment un grand drame et j'étais toujours contre, tout le monde était contre le massacre. Mais de toute façon, on doit dire que même les sit-in n'étaient pas pacifiques parce qu'il y avait un rapport de Amnesty International international le 3 août 2013 sur les sit-in. Mais de toute façon, l'armée devait, à mon avis, préserver une transition démocratique, mais malheureusement, l'armée a pris le pouvoir, vous voyez.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, par exemple, partisan d'une réconciliation avec les frères musulmans, vous qui êtes laïque?
Mais je comprends pas l'idée de la réconciliation, parce que si on dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, vous voyez. Ou bien ils sont, moi je pense que la loi en Égypte, il n'y a, les frères ne sont pas jugés d'une manière juste. Les frères et les autres. Vous voyez, parce que, c'est ça, hein, c'est ça la vérité. Moi je défends les droits des frères musulmans comme les autres, les droits de l'homme. Soit frère musulman, soit communiste, pour tout le monde.
La France a été très peu critique avec le régime de Sissi. Sissi a été reçu par Emmanuel Macron, c'est notre allié, on lui vend des armes. Comment jugez-vous cela?
Parce que la question, est-ce que les gouvernements occidentaux, la France est inclus, présentent les principes ou présentent les intérêts? C'est ça la question. À mon avis, il présente les intérêts, souvent.
Alors le gouvernement français répond que Sisi, par exemple dans le Sinaï, est en train de mener une bataille contre les islamistes, contre Al-Qaïda, et qu'il y a donc urgence à aider cet homme qui est en quelque sorte le moindre mal.
Oui, mais écoutez, moi je veux pas, c'est pas seulement du président Macron, c'est le président de tous les gouvernements occidentaux qui ont soutenu Moubarak, vous voyez, pendant des années. Hein. Et chaque fois qu'il faisait des choses contre les droits de l'homme, on disait que oui, mais la démocratie, la voie de la démocratie était très longue et des choses pareilles. Alors moi, je fais pas confiance aux gouvernements occidentaux pour que ces gouvernements défendent les principes, ils défendent les intérêts. Ceux qui défendent les principes, ce sont les peuples occidentaux et pas les gouvernements.
Et le peuple égyptien, celui que vous présentez dans « J'ai couru vers le Nil à la El Aswani », c'est un peuple désillusionné aujourd'hui. Que peut-il encore espérer ? À quoi rêve cette étudiante que vous décrivez, celui qui correspond avec elle, qui fait des études de médecine ? Je ne dévoile pas la fin du roman, mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ?
On voulait la révolution dès le deuxième jour, a écrit à la place Tahrir ce qu'on veut. On voulait un État laïque, on a écrit ça, laïque, qui n'est pas religieux et n'est pas militaire. Une vraie démocratie. On doit être traité comme des êtres humains.
J'ai couru vers le Nil, c'est votre roman publié aux éditions Actes Sud à la Soigny.